100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Ladies and gentlemen, this is a warning. Any person found to be using any form of social media during this performance will immediately be ejected.
Bonjour, à l'heure des réseaux sociaux, comment lutter contre la propagande d'État, surtout quand elle devient experte des fausses informations? Les démocraties européennes sont de plus en plus nombreuses à être confrontées à ces questions. Exemple, en Hongrie, où le très populiste Premier ministre Viktor Orban contrôle l'ensemble de l'audiovisuel public, mais aussi près de 500 médias privés qui appartiennent à l'équipe au pouvoir. Comment résister à cette machine de guerre spécialiste des fake news? Eh bien, depuis les dernières municipales, des localités passées dans l'opposition tentent d'ouvrir une brèche dans cet empire médiatique, et ce, via les gazettes municipales. Ces journaux distribués gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres redeviennent des espaces d'expression libre et critique. Reportage de notre correspondante Florence Labruyère dans le 8e arrondissement de Budapest.
András Piko est le nouveau maire du 8e arrondissement de Budapest. Élu grâce au soutien des associations et de l'opposition, cet ancien journaliste veut que le journal local cesse d'être un outil de propagande comme il l'était sous l'ancienne municipalité.
Ce journal diffusait uniquement la propagande du pouvoir. Il parlait des élus de droite, des réceptions qu'ils donnaient, des lieux qu'ils inauguraient. Il ne reflétait pas du tout la diversité sociale et culturelle de cet arrondissement. Il n'y avait pas un seul article sur les associations, sur les artistes indépendants, ni sur les problèmes et les souhaits des habitants. Ce journal était au service du pouvoir, pas des citoyens.
Et les élus de droite décidaient de son contenu. Mais tout cela, c'est fini. L'ancienne rédaction est partie d'elle-même. De nouveaux journalistes ont été embauchés. Pour le nouveau maire, il faut couper le cordon entre la presse et la politique.
On a donné carte blanche aux journalistes. Ils travaillent comme ils veulent. Et je ne peux pas les licencier, car ils ne dépendent pas de moi, mais d'un organisme municipal. Je leur ai seulement dit, soyez critiques et objectifs. Il ne faut pas hésiter à critiquer les hommes politiques s'ils font des bêtises. Car sinon, comment apprendraient-ils de leurs erreurs? Ce contrôle démocratique, c'est dans mon intérêt.
Direction la rédaction du journal à 300 mètres de la mairie. Tibor Lendiel, le nouveau rédacteur en chef, montre le dernier numéro.
On a créé une nouvelle rubrique, ça s'appelle Focus, c'est un dossier thématique. Là, on publie une enquête sur les écoles de l'arrondissement. Et dans le prochain numéro, il y aura un dossier sur les pistes cyclables du quartier. On va interroger les associations, les élus, pour voir si on circule bien à vélo et si on peut améliorer les choses.
Sur son site web, le journal publie des reportages, comme celui où les habitants donnent leur avis sur le nouveau maire. Certains sont contents, d'autres non. Il est mal habillé. La première chose qu'il a faite a été d'augmenter son salaire, critique un résident face à la caméra. Sous l'ancienne municipalité, un tel reportage aurait été impensable. La rédaction cherche donc à être objective, mais elle se heurte à un problème. Les élus de droite ne répondent plus aux demandes d'interview.
En décembre, on a publié une interview d'un élu de droite, mais elle était trop longue, alors elle a été coupée. Et puis, la rédaction a indiqué, entre parenthèses, que ce que disait l'élu n'était pas toujours vrai. Il s'est vexé et depuis, l'opposition refuse de nous parler.
Mais l'empire médiatique du Premier ministre Viktor Orban continue à diffuser des fake news et à calomnier le maire du 8e arrondissement.
La machine de propagande des médias d'État fonctionne toujours. Il raconte que j'ai augmenté mon salaire, que je donne des contrats à mes amis et que je veux accueillir des SDF dans le quartier. Tout ça est archi-faux.
Autre exemple de calomnie, András Piko s'est engagé auprès des électeurs à circuler à vélo et en bus. Il a utilisé sa voiture de fonction une seule fois. Et ce jour-là, comme par hasard, les médias pro-gouvernementaux étaient là.
Ils m'ont filmé en train de monter dans la voiture et l'usine à mensonges s'est mise en route. Pendant 3 jours, tous les médias proches du pouvoir ont passé des images en boucle en disant « Piko a menti aux électeurs, il roule en voiture ».
Face à l'océan des fausses nouvelles, que pèsent les journaux locaux? Leur influence est loin d'être négligeable, selon Agnès Urban, professeure à l'université Corvinus.
En 2018, nous avons mené une enquête avec l'Institut de sondage Médian. Cette étude montre que ces journaux locaux gratuits ont un lectorat important. La majorité des gens ne les lit pas tout de suite, mais les gardent à la maison. Ces journaux sont très lus.
Les municipalités d'opposition l'ont bien compris. Le journal du 8e arrondissement vient d'ailleurs de créer sa chaîne sur YouTube pour diffuser ses reportages.
Autre expert de la manipulation de l'information, le Premier ministre britannique Boris Johnson. Au point qu'un site internet s'est créé, Les mensonges de Boris Johnson, c'est son nom, et il recense toutes les contre-vérités du Premier ministre, les explications de Marie Billon.
Quand on sortira de l'Union européenne, on pourra interdire la soupe aux ailerons de requins. C'est ce qu'a dit Boris Johnson en septembre dernier. Le Premier ministre aime vanter les mérites du Brexit, quitte à jouer avec la vérité. Car l'UE interdit déjà certains aspects de la pêche aux requins et rien n'empêche le Royaume-Uni d'aller plus loin et d'interdire la soupe à l'aileron. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres dans lequel le Premier ministre n'hésite pas à tordre la vérité, voire à mentir pour critiquer l'Union européenne ou à d'autres fins. Un site internet Boris Johnson Lies, les mensonges de Boris Johnson, recense toutes les contre-vérités du Premier ministre et de son administration. Trois députés font l'objet d'une enquête pour collusion avec un pouvoir étranger. C'était la une du Mail on Sunday le 29 septembre dernier. Deux sources, selon la formule consacrée proche du gouvernement, avait assuré au journal que trois élus auraient accepté de l'aide de gouvernements étrangers pour écrire leur texte de loi qui rendait impossible un Brexit sans accord. D'autres journalistes ont repris l'affaire, se rendant compte que les députés concernés n'avaient pas entendu parler de cette enquête. Downing Street a ensuite confirmé qu'il n'y avait jamais eu d'enquête. Les journalistes ont l'habitude de faire confiance à ces sources qui sont censées parler au risque de se faire taper sur les doigts, exfiltrant des informations que le gouvernement voudrait garder secret. Sauf que, depuis l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson, et surtout de son conseiller Dominic Cummings, il se servirait de cette relation privilégiée pour propager des mensonges et les médias n'ont pas encore appris à se méfier. Les journalistes ne savent pas encore comment dénoncer ce genre de mensonges éhontés. La concurrence entre médias, la recherche de l'exclusivité facilite la diffusion de ces infos douteuses.
Comment se battre sur le terrain de l'information face aux raccourcis mensongers ? En Italie, un jeune homme s'est lancé dans une véritable bataille digitale en utilisant les mêmes armes que celles des populistes italiens, la maîtrise des réseaux sociaux. Il s'appelle Lorenzo Tosa et sa page Facebook est désormais presque aussi populaire que celle de l'ex-ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Son portrait signé Francine Beretti.
Il y a un an, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est une des références des réseaux sociaux. Sa page Facebook est une de celles qui provoque le plus de commentaires, de likes et de partages en Italie. Seulement deux personnes ont une communauté plus active. Matteo Salvini, chef de l'extrême droite et ancien ministre de l'Intérieur, et Enrico Mentana, journaliste star de la télé. Son blog s'appelle Génération Antigone, tout un programme. Sa page Facebook compte près de 200 000 lecteurs. Il veut combattre ce qu'il estime être le grand problème actuel.
Aujourd'hui, on voit bien avec le coronavirus quel est le vrai virus de ce pays. Souvent, c'est l'ignorance qui génère dans ce cas du racisme à l'encontre des Chinois. Hier, le vice-président du Sénat, Ignacio La Russa, il a pour deuxième prénom Benito, c'est pas un hasard, il a donc fait l'éloge du salut fasciste comme seul moyen d'éviter la contagion. Parce que si tu tends le bras, tu ne serres pas la main de l'autre et tu n'attrapes pas de virus. Voilà le niveau de ce pays aujourd'hui. Et alors, on cherche le vaccin, et le vaccin, c'est la culture, c'est évident.
Lorenzo Tosa met en avant des personnalités engagées, des récits d'entraide, de partage. Il démonte la propagande de l'extrême droite qui oppose les gens les uns aux autres. Ça a l'air simple, mais combattre la bête, l'équipe de communication de Matteo Salvini, c'est très technique. Il faut vérifier les informations, être toujours avec son smartphone et de nombreuses autres qualités.
Una sicuramente è il copy, la capacità di cogliere il momento.
Une d'entre elles, c'est le style, la capacité de sentir le moment, de savoir le traduire sous forme de post. Après, il y a la stratégie, le timing, toujours réagir à l'actualité, suivre les tendances de la journée sur tous les canaux, Twitter, Facebook. Beaucoup de gens sous-estiment cet aspect-là, comme s'il suffisait d'écrire un post. Mais ça ne marche pas comme ça. Parfois même 30 secondes de plus ou de moins, un retard peut transformer l'effet d'une publication. Moi, pendant que je fais cette interview, je prends le risque de rater quelque chose.
Ce jeune geek est devenu un symbole, le symbole de cette Italie qui ne veut plus subir la propagande, qui ne supporte plus la haine et le racisme. Mais son cas est encore plus emblématique, car avant de lancer son blog, Lorenzo travaillait dans la communication politique. Il était salarié du mouvement 5 étoiles en Ligurie, ce même mouvement qui s'est allié à la Ligue et a permis à Matteo Salvini d'avoir les mains libres pendant un an. Sa carrière était toute tracée jusqu'en juillet 2018.
C'è stata l'estate dell'Aquarius, della Diciotti, dei migranti tenuti in ostaggio in mezzo al mare.
Il y a eu l'été de l'Aquarius, du Diciotti, des migrants retenus en otage en pleine mer. L'été aussi de la naissance de ce gouvernement monstrueux avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Là, j'ai compris que je n'étais plus à ma place, que je ne pouvais pas rester. Ça m'a pris quelques mois. Le matin, je regardais mon fils dans les yeux, puis je détournais le regard. Je n'y arrivais pas. C'était quand même un moment où les gens qui sauvaient des vies en mer étaient appelés taxis de la Méditerranée. Et donc, j'ai démissionné. Et j'ai fait ce que, d'une certaine façon, j'avais toujours fait, écrire.
Écrire et se salir les mains, comme il le dit, parce que trop d'Italiens sont restés passifs face au changement politique.
C'est sûr que ces dernières années, malheureusement, on est resté trop longtemps assis là, à attendre que les gens comprennent tout seuls à qui ils avaient affaire. On regardait avec une espèce de soi-disant supériorité intellectuelle et politique. Mais en fait, tu dois te battre pour qu'elle triomphe, tous les jours. Cette bataille se gagne avec la communication, car aujourd'hui, la politique, c'est de la communication.
De la communication seulement, pas d'engagement politique assumé, des valeurs comme l'antiracisme ou le féminisme. Peu de choses, finalement, par rapport au succès des mots de Lorenzo, peu de choses dont l'Italie semble avoir besoin.
Et dernière info que s'en date, en Bulgarie, les droits d'auteur sur l'hymne national bulgare que vous venez d'entendre auraient été revendus pour 3 millions d'euros par le Premier ministre. Et une nouvelle fois, c'est l'extrême droite qui est derrière cette fausse information. Les explications à Sofia de Damien Vodenicharov.
7 millions de dollars pour les droits d'auteur de l'hymne national pour une période de 25 ans. C'est ce qu'ont affirmé les sites habituels d'Infox, mais aussi un mouvement d'extrême droite, Vasrajdané ou Renaissance, est un parti non représenté au Parlement, mais qui aime organiser des manifs musclés. Une vidéo où les adhérents du parti chantent l'hymne national devant le ministère de l'Environnement a reçu une notification de la part de YouTube pour dire que le contenu est protégé par des droits d'auteur détenus par Tommy Hansson, un musicien norvégien. Hansson a en fait publié des compilations d'hymnes interprétées par lui-même et ses confrères, d'où l'erreur survenue au niveau des algorithmes de YouTube. L'extrême droite bulgare a profité de ce malentendu pour s'en prendre au Premier ministre Boyko Borisov, l'accusant d'être un traître et d'avoir revendu l'honneur national pour empocher quelques millions, provoquant une panique au sein de la société bulgare. Mais ce n'est pas une première. En octobre 2019, déjà la ville de Sliven, située à 300 km à l'est de la capitale Sofia, était prise d'assaut par des rumeurs que le gouvernement viendrait enlever des élèves dans les écoles. Une nouvelle législation sociale lui donnerait de vastes prérogatives. Résultat, les écoles et collèges se sont vidés en quelques minutes. Si cet Infox a fonctionné en Bulgarie, c'est parce qu'il s'appuyait partiellement sur la réalité. Il y a plusieurs cas très médiatisés de parents bulgares résidant en Norvège, dont les enfants ont été pris par les services sociaux par soupçon de violence. Des fake news qui très souvent servent à alimenter l'idée d'un Occident décadent, voire pervers, et nourrir ainsi l'extrême droite et le populisme politique.
Et c'est l'heure de notre chronique en un mot typique et souvent intraduisible. Direction la Lettonie aujourd'hui, qui elle non plus n'est pas épargnée par le phénomène de l'infox et notamment via les influenceurs sur YouTube. Des influenceurs qui disent si rarement la vérité que les Lettons ont inventé un mot pour les désigner, yetekmeli ou les influenceurs menteurs, Marielle Vituro.
Tout est parti d'une histoire de jus de céleri. Sur son site Instagram, Gunnar Rojlapa, 3000 abonnés, le présente comme la panacée. Bu régulièrement, ce jus verdâtre guérirait de tous les maux, même du cancer. Une autre jeune femme, Kateveg Mané, 6000 abonnés, vante les mérites du noni, le jus d'un fruit tropical qui stopperait les métastases. Il n'en fallait pas plus pour que Rebaltica, un journal d'investigation en ligne, se penche sur le sujet. Inessa Liepina, l'une des auteurs de l'article, jointe par téléphone.
Les médias sociaux sont relativement nouveaux en Lettonie. Il y a un culte d'Instagram, il y a de plus en plus d'influenceurs. Et pour certains, faire la publicité de produits et les vendre est un travail à temps plein. C'est une activité qui va prendre de plus en plus d'ampleur.
Les Lettons seraient plus de 220 000 à utiliser les réseaux sociaux chaque mois, selon Rebaltica. Cette nouvelle passion lettonne se reflète évidemment dans la langue. Ieva Kolmane est traductrice. Elle fait partie du comité qui élit depuis 17 ans les mots de l'année en Lettonie.
Le mot influenceur avait été choisi l'année dernière comme le non-mot de l'année, car il n'a même pas été traduit. Il était utilisé directement en anglais. Une année a passé et nous constatons aujourd'hui que les influenceurs sont détestés. En un an, le mot s'est transformé en yetek melis. C'est un mot nouveau, composé, qui signifie influencer et mentir. Quelqu'un qui cherche à t'influencer par le mensonge.
Le letton, qui s'est formé comme langue littéraire au 19e siècle, est pétri d'emprunts au russe ou à l'allemand, les langues de deux pays qui ont marqué l'histoire de la République balte au fil des siècles. Raivis Vilunc est caricaturiste, l'inventivité du letton le réjouit. Exemple avec ce néologisme des influenceurs menteurs.
J'ai représenté une hydre à deux têtes. D'un côté, ces influenceurs menteurs présentent une très belle image d'eux-mêmes, mais d'un autre côté, ils ne font que propager des mensonges.
Ce mot « yetek meli » est en tout cas carrément devenu un mot-clé sur les réseaux sociaux. Inès Aliépina, journaliste pour le site d'investigation Rebaltica.
Nous avons réalisé une version vidéo de notre enquête, puis nous avons coopéré avec le média public letton. De nombreux sites ont repris notre enquête. Le week-end qui a suivi a été intense. Beaucoup de gens ont commencé à utiliser le mot-clé « yetek meli » et ont dénoncé ces influenceurs qui mentent.
Que la justice poursuive ces influenceurs menteurs, voilà ce que voudraient désormais Inès Aliépina et de nombreux journalistes. L'Office de protection des consommateurs est au courant, mais comme certains messages trompeurs ont été supprimés, difficile d'agir pour le moment.
Osman Kavala Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığıydı. Salı günkü duruşmada hakkında beraat ve tahliye kararı verildi.
Et sur un tout autre sujet, direction la Turquie à présent, où le 18 février dernier, l'homme d'affaires Osman Kavala était acquitté après avoir été accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement en 2013. Mais à peine l'acquittement prononcé, Osman Kavala, figure influente de la société civile turque, a été de nouveau accusé, en lien cette fois avec la tentative de coup d'État de 2016. Son portrait avec Juliette Garbrandt.
Il va falloir travailler dur pour convaincre davantage de monde dans la société turque de ce qui est arrivé aux Arméniens dans le passé. Osman Kavala, au micro de l'ONG EGAM en 2014. Jeter des ponts entre les cultures, c'est l'un de ses grands engagements. Né en 1957 à Paris, l'homme d'affaires et mécène est aussi un humaniste, témoigne l'une de ses amies, l'universitaire française Dalita Roger.
La première chose qui vient à l'esprit, c'est sa gentillesse, sa douceur et sa modestie. C'est quelqu'un d'extrêmement pacifique et pacifiste. Et ce qu'il m'a confié un jour où nous étions tous les deux, c'était son intolérance à l'injustice.
Cette sensibilité, Osman Kavala la développe surtout à Manchester, où il a fait ses études, poursuit son ami. C'est l'époque où le républicain irlandais Bobby Sands meurt d'une grève de la faim sous le gouvernement Thatcher. À son retour en Turquie, Osman Kavala se liera avec les mouvements de la gauche, tout en héritant de la grande entreprise familiale de tabac. C'est un millionnaire atypique. Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Une fois n'est pas coutume, il a utilisé une bonne partie de sa fortune pour des projets caritatifs, pour des projets humanitaires. C'est un homme qui a imposé le respect aussi par son engagement et par le fait qu'il n'a jamais été attiré par les jeux de pouvoir.
Osman Kavala a fondé une grande maison d'édition, le centre culturel Dépôt à Istanbul. Il a permis aussi la réalisation de nombreux films et documentaires. En 2013, il soutient les manifestations de Gezi. Début 2017, il appelle au boycott du référendum qui élargit les pouvoirs du président Erdogan. Devenu l'une des nombreuses bêtes noires du pouvoir, il n'évite pas l'arrestation en octobre de la même année d'Alita Roger.
Il y avait beaucoup d'amis qui lui disaient de partir à l'étranger comme l'ont fait d'autres défenseurs des droits de l'homme turcs. Lui, il a toujours refusé.
Acquitté le 18 février, faute de preuves qu'il ait voulu renverser le pouvoir en 2013, il n'a pas le temps de quitter la prison. Il est aussitôt placé en garde à vue, en lien cette fois avec la tentative de coup d'État de 2016. Personnage influent de la société civile, Osman Kavala n'a en revanche jamais envisagé de carrière politique, relève Didier Billon.
Kavala n'a jamais voulu s'engager plus avant dans la politique partisane, ce qui rend d'autant plus inquiétant les processus actuels à son encontre.
Les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi plusieurs gouvernements européens, ont dénoncé le maintien en détention d'Osman Kavala.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter à toute heure et partout, abonnez-vous au podcast de notre émission Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. À demain !